Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Vivante Église consacrée au temps des fiançailles. Aujourd'hui, nous prenons le temps de nous arrêter sur un moment clé de la vie des couples, un moment dont on parle assez peu, le temps des fiançailles, un temps de joie, mais aussi un temps de questionnement parfois, parfois de doute, un temps où l'on apprend à se dire la vérité, à se choisir vraiment, à mesurer ce que veut dire s'engager. Que l'on soit jeune couple, parents ou grands-parents, ce temps nous concerne tous parce qu'il touche à ce qui est important dans une vie, aimer et s'engager dans la fidélité pour durer. Pour en parler, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Béatrice Delahaye et Isabelle Dacre-Vreit. Elles accompagnent des couples fiancés et sont engagées sur cette préparation d'une journée diocésaine pour les fiancés qui se tiendra à Pibrac le jour de la fête Saint-Valentin, le 14 février. Bonjour Alix Delahaye.
Bonjour.
Bonjour Isabelle Dacre-Vreit.
Bonjour Nathalie.
Quand on parle de fiançailles aujourd'hui, de quoi parle-t-on vraiment, Alix ?
Un temps de préparation à ce beau sacrement et exigeant sacrement du mariage. Les fiançailles, c'est vraiment un temps où il n'y a pas encore d'engagement, où il y a une vraie liberté pour se marier. Et la liberté, c'est un des piliers du mariage, donc c'est indispensable. Les fiançailles, c'est vraiment un temps qui est béni et qui est un cadeau pour se préparer. Et il faut se préparer en douceur et en toute intelligence.
C'est vraiment un beau temps. En général, c'est un temps d'émerveillement aussi, parce qu'on s'aime, parce qu'on est aimé. C'est quelque chose qui est beau. Et on va voir qu'en fait, en se disant qu'on va se marier, il arrive des choses un peu plus compliquées et peut-être des peurs, peut-être des... s'engager, c'est pas rien, en fait. Et donc, ce temps de fiançailles, il est beau qu'il soit accompagné aussi, qu'il soit accompagné par d'autres fiancés, peut-être, mais aussi des prêtres, des couples mariés. Et c'est ce cheminement qui est juste fabuleux. Avant un engagement, on va se dire oui pour la vie. Et ça, c'est un truc incroyable. Hein. Enfin, je sais pas, Alix, t'as combien d'années de mariage, toi ?
Moi, j'ai 18 ou 19 ans de mariage. C'est vrai que pour moi, les fiançailles, c'est le moment où encore tout est possible. C'est la grande joie. On va se marier, ça va être dingue. Et en même temps, c'est oulala, on va se marier, ça va être fou. Et j'en ai pour la vie. Mais ce temps de fiançailles, ouais, c'est vraiment le temps des possibles à tout point de vue. Dans les projets, dans ce qu'on veut mettre en place avec notre mari, c'est la relecture de notre vie de maman, mes parents, ils m'ont offert telle chose, est-ce que je veux reproduire ces choses-là ou est-ce que je veux dire d'autres choses. Seulement, on va vraiment construire notre famille, on va poser les bases pour notre famille avec notre fiancé. Donc c'est vraiment le champ des possibles.
Alors avec vos expériences d'accompagnement, toutes les deux, quelles sont les questions très concrètes de ces fiancés qui ont besoin d'oser se poser et s'interroger, Isabelle et Alix ?
En fait, je vois, puis même je vois à travers mes enfants qui se sont mariés ou qui vont se marier encore, là. C'est aussi le temps des questionnements, de qu'est-ce que j'ai vécu, moi, en fait. Mes parents, c'était qui ? Est-ce que j'ai envie de reproduire ce que mes parents étaient en tant que couple ? Parce qu'il y a ça qui se joue. Nous, on veut construire ça, mais je sais que j'arrive avec ce bagage-là. Est-ce que je pourrais mettre de côté cette part que je ne veux pas ? Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on dialogue en vérité, en couple. Ça, c'est hyper important. Et ce temps de fiançailles, ça va être vraiment... Il y a bien sûr tout ce que les autres vont leur apporter, mais comment ça résonne en eux. Et ils ne se connaissent pas encore parfaitement. Ils finissent ce temps de fiançailles. Ça complète leur connaissance mutuelle. Et on va voir que des années de mariage vont continuer de faire découvrir l'autre. Et heureusement qu'on continue de découvrir l'autre encore aujourd'hui.
Alors aussi dans les fiancés qu'on rencontre et qu'on accompagne aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fiancés effectivement qui habitent ensemble. Là dans la dernière préparation en mariage qu'on a faite avec mon mari à la paroisse cathédrale, bon ils habitent tous ensemble quoi. Les 5 couples de fiancés habitaient ensemble. Il n'y avait même pas la question ne se posait pas. C'était bon voilà. Mais ce qu'on a trouvé très beau, c'était que c'était la. Donc ok ils habitent ensemble, ils se connaissent véritablement très bien. Même parfois, on avait l'impression qu'ils se connaissaient mieux que Antoine et moi, on nous connaissions. C'est un petit peu. Bon, c'est bien, ça nous fait questionner, c'est très bien. Mais eux, ils venaient vraiment pour dire bah oui, on se connaît très bien, on veut construire notre vie ensemble et tout. Mais pourquoi se marier à l'église? En fait, ils cherchaient à avoir les trucs et astuces pour quel est le plus du sacrement. Vraiment, qu'est-ce quoi ce sacrement? À quoi ça me sert? Et les trucs et astuces de mettre Jésus dans leur vie de couple. Vraiment se faire ce couple à trois avec Jésus. Et ça a été un beau moment. Bon, c'est vrai qu'on avait aussi quand même pas mal de catéchumènes dans nos fiancés. Donc c'est vrai que c'était un beau moment d'échange et de réveil. Réveil dans notre couple et réveil dans notre foi, mon mari et moi.
Vous avez envie de réagir
Et bien, en fait, ça me fait penser que dans cette journée-là, la fameuse journée du 14 février, où on va proposer aux fiancés de se retrouver en église, on va dire, il va y avoir ces temps de témoignages où il y a des couples qui vont venir partager comment le Seigneur intervient dans leur vie de couple, dans des moments de fragilité, de difficulté, etc. Et ils viennent témoigner de ça. Et ça saisit les fiancés. Parce qu'ils se disent qu'en fait, de fait, ils sont partis pour 30, 40 ans, 50 ans de mariage. Et ben, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Oui. Et que, ben, il peut y avoir la maladie, le chômage, etc., etc. Et comment est-ce qu'on demande au Seigneur de venir nous aider à traverser ça?
Quels sont les plus grandes inquiétudes de ces jeunes couples fiancés en vue de cette préparation au mariage?
La lassitude, la routine et le divorce.
Et puis la durée peut-être, la question de cette fidélité.
Exactement, c'est comment faire pour que dans 10 ans on continue à s'aimer, comment faire si on peut accueillir des enfants, est-ce qu'on aura le temps pour l'un et les autres? Et si on n'accueille pas d'enfants, comment on fait? Comment on arrive à rester un couple même si on n'arrive pas à avoir d'enfants. Voilà, c'est toutes ces questions. Je pense que c'est les principales questions.
Alors, comment aider ces jeunes fiancés, ces jeunes couples à grandir dans une relation qui respecte toutes ces dimensions de la personne humaine, affective et spirituelle, Isabelle?
Il y a le partage, l'échange, le... Parfois, on va voir des couples, même jeunes fiancés, qui ont besoin d'être accompagnés par un thérapeute, par exemple, sur un conseiller conjugal, parce qu'ils n'arrivent pas à se caler. Comment ils arrivent dans la vie de couple, qu'ils partagent leur vie commune déjà ou pas, ils arrivent avec une éducation, une histoire, et c'est parfois le choc des cultures, en fait, simplement parce que c'est un homme, une femme, par exemple. Enfin, clairement, c'est pas simple. Vous voyez? Donc comment on se rend compte? Comment est-ce qu'on peut dire ses besoins? Comment est-ce qu'on peut dire ses valeurs? Et ce temps de fiançailles, ces moments justement où il va falloir pouvoir poser ça. Parce que si nous n'avons pas les mêmes valeurs, si je ne me sens pas respectée, si je ne peux pas respecter l'autre dans ce qu'il est, il ne faut pas y aller. Et c'est dur ça pour eux parce qu'ils s'aiment, ils ont envie de s'aimer. Mais il y a des montagnes à franchir. Alors, il va falloir renoncer à certaines choses. Est-ce que je suis prête à renoncer? Mais à ça, des fois, on n'est pas prêt. Et si on n'est pas prêt à renoncer à certaines choses? Et c'est assez rare, mais ça arrive. Et heureusement, et c'est ce que tu disais, finalement, c'est de garder cette liberté jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Moi, mon papa, devant l'église, m'a dit, Alix, on y va ou pas? Oui, on y va. Voilà, c'était pour me dire qu'il fallait rester libre, vraiment, jusqu'au bout. Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'ils se disent les choses, mais aussi il faut que les fiancés apprennent à écouter et à recevoir. Bon, tout le monde, ça, mais c'est vrai que les fiançailles, c'est ce temps-là aussi. Et c'est vrai que parfois, dans les temps de préparation au mariage, c'est parfois ces deux pierres qui viennent se coller, se frictionner, ça peut faire des étincelles. Et en fait, on vient vraiment polir cette pierre brute. Et alors, il y a effectivement l'écoute et le dialogue, mais parfois, ça réveille aussi des blessures de l'un ou de l'autre. Donc, par rapport à la thérapie, forcément. Enfin, parfois, voilà, ça questionne sur certaines choses et il y a des blessures qui réapparaissent ou qui apparaissent. Donc, c'est vraiment un temps où il faut prendre le temps.
Donc, vous encouragez quand des profils aussi se présentent avec les blessures de la vie. Vous avez parlé aussi des blessures d'une histoire de vie, car ce sont deux histoires de vie qui se rencontrent dans ce temps aussi de vérité.
Et je trouve que c'est beau aussi, deux chemins de vie qui se rencontrent. Parfois même on se choisit, mais on sait que l'autre est tellement différent de moi que c'est grâce à lui que je vais pouvoir me polir, grandir. Et forcément, ça frotte. Et ça, il faut vraiment, il ne faut pas avoir peur du conflit, de la différence. Et comment est-ce qu'on apprend à ces jeunes couples à parler en... Alors, dialoguer, ils ont l'habitude de dialoguer. Ils savent, ils discutent, etc. Mais est-ce qu'on arrive à dialoguer quand on est dans le conflit, quand on est blessé, Nous, avec Alix, on fait partie d'un même mouvement qui s'appelle les équipes Notre-Dame. Oui. Et on nous parle, on nous invite à faire un devoir de s'asseoir. C'est moche comme mot, hein. Mais c'est le fait de s'arrêter dans nos vies, une heure, deux heures.
De faire une relecture.
Faire une relecture, de redire à l'autre ce qu'on aime chez l'autre, ou quand est-ce qu'on a été blessé. Pouvoir se poser. Et c'est vraiment un temps de couple où on se rejoint vraiment pleinement.
Au fond, quand on parle de, que vous évoquez ce temps qui est un cadeau dans une vie, ce temps de se préparer peut-être pour un engagement à vie, pour une durée de fidélité, c'est une prise de parole, c'est une prise de risque, mais c'est le risque de faire aussi une vérité sur soi-même. C'est un beau travail. Au fond, c'est un travail de préparation intérieure. C'est un travail thérapeutique, presque.
Mais en fait, surtout, c'est la vocation du mariage, quoi. Ouais. C'est pas rien, la vocation du mariage. Vous voyez, on est appelé dans le mariage à être des saints. Et c'est bien mon mari qui m'aide à être sainte. Et vice-versa. Et en fait, ça se prépare. Les fiançailles sont plutôt courtes, quand on voit ceux qui vont se préparer peut-être au sacerdoce. Ils passent 7 ans à se préparer à ça. Nous, en général, on n'a pas 7 ans de préparation au mariage.
Alors, vous êtes à combien dans ce temps aujourd'hui de préparation au mariage, pour faire les choses bien, la durée de préparation au mariage aujourd'hui?
Ça dépend de la location de la salle. C'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, les fiançailles, il y a quand même un côté matériel où on invite les fiancés à se préparer spirituellement et à essayer de se détacher du matériel. Mais c'est vrai, les pauvres sont facilement rattrapés par ça. Nous, on encourage un an de fiançailles, c'est ce qu'on encourage. Et c'est là où ils nous répondent en rigolant. De toute façon, la salle, il n'y en a pas avant un an et demi, deux ans. Bon, très bien. Mais c'est ça, c'est une bonne année.
Et puis c'est entre le moment où ils disent qu'ils sont fiancés, et puis déjà le moment où ils étaient déjà ensemble. Enfin, il y a tout un cheminement. Parfois, certains, ça va être plus long que ça, en fait. Ils ne l'auront pas forcément appelé tant de fiançailles, avec tant de réflexion, avec un engagement, mais il y a déjà cette connaissance mutuelle. Puis il y en a d'autres qui vont être un peu plus pressés, parce que l'heure tourne, qu'ils ont 35, etc. Et parfois, ils vont se dire, on sait que c'est l'autre, en fait, et on va y aller, mais ils vont mettre peut-être 6 mois.
Alors, quels sont un peu les profils aujourd'hui de ces fiancés que vous accompagnez, que vous écoutez et au fond que vous préparez, Alix et Isabelle?
Il y a toujours le jeune couple de 25 ans. Famille catholique des deux côtés, ça existe toujours.
Ça encore existe,
ça
oui,
existe
oui.
toujours. Mais ils sont minoritaires. Et alors c'est très beau parce que ces couples-là, parfois ils sont touchés en fait par les couples qui vivent ensemble, etc. Et ça les amène aussi à réfléchir. Parfois ils arrivent avec, moi j'ai fait du cathé toute ma vie, j'ai fait des camps, j'étais au JMJ, je connais l'Église. Et souvent ils sont touchés par les personnes qui sont un peu loin, qui sont parfois ont des réflexions parfois un peu simples par rapport à leur connaissance. Mais justement ils sont touchés, ils sont interrogés parce que eux ils ont eu la chance d'être nourris, biberonnés à tout ça. Et là, ils rechoisissent aussi leur foi. Donc on a ces couples-là et on a aussi des couples qui ont entre 30 et 35 ans, on va dire autour de 30 ans, qui sont mariés, qui sont établis.
Mariés civilement.
Mariés civilement, effectivement. Parfois par an. Mais ça, c'est la grande majorité.
Et puis après, on a quelques couples aussi un peu plus âgés. On a des vieux couples, alors des fois ils ont des enfants, des fois ils n'en ont pas. 45, 50 ans, c'est plus rare. Autant que les 25 cathos, on va dire. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui vous surprend le plus après un certain temps aussi d'accompagnement de tous ces différents visages que vous nous présentez, différentes générations aussi
Bah, moi, ce qui me touche, c'est qu'aujourd'hui... En fait, il y a très. Enfin, alors, je ne dirais pas aujourd'hui, mais il y a peut-être il y a 2 ans, on va dire. L'église, c'est nul. Il n'y a personne dans les paroisses, personne pratique. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens se marient alors à l'église? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et en fait, on voit un vrai désir profond de trouver quelque chose qui va les aider à tenir dans la durée.
Alors, qu'est-ce que ça dit pour eux, ce sacrement de l'Église?
Il y a peut-être quelque chose, peut-être une exigence, enfin, je ne sais pas si c'est cette exigence, mais il y a une soif, d'abord, il y a une soif spirituelle, on la voit, on l'aperçoit clairement, de se dire... Moi, je suis touchée par les couples qui disent, mais en fait, on sait que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, on veut que le Seigneur soit là avec nous. C'est beau, parce que dire, on se dit, mais de fait, on se dit fragile, faible, dans quelque chose qui est incroyable. On peut pas dire qui aurait pu parier qu'on allait tenir tant d'années ensemble. Enfin, je veux dire, nous, on a le désir, mais en fait, de fait, la réalité, elle est compliquée. Donc, le quotidien, la routine, tout ce que tu disais.
Alors, pour vous, c'est pas une routine d'accompagner ces fiancés, futurs mariés?
Ben d'abord parce que chaque personne est unique. Hein.
Quel est un peu votre secret dans l'accompagnement? Vous avez peut-être chacune aussi dans vos engagements de couple, dans cette préparation qui n'est pas n'importe quelle préparation parce qu'elle conduit ces jeunes fiancés. Si ces jeunes fiancés vont jusqu'au bout, hein, parce que la liberté, c'est jusqu'au dernier jour, hein, jusqu'au jour où on se présente peut-être à l'hôtel. Quel est un petit peu votre secret dans tous ces moments aussi de préparation et puis de rencontre? Qu'est-ce qui vous donne un tel engagement pour les accueillir et puis les accompagner jusqu'à cet engagement?
L'émerveillement de voir des couples arriver. Je suis toujours très touchée de voir des couples arriver, des couples qui nous font confiance dans leur accompagnement.
Des couples qui n'ont pas peur de se livrer.
Exactement. Ça, je trouve ça très, très touchant. Donc, c'est l'émerveillement. Assez égoïstement, Antoine et moi, on est très heureux de faire de la préparation au mariage parce qu'on sait que ça fait une relecture de notre vie de couple et ça renouvelle notre envie de continuer.
Au fond, vous recevez au centuple.
Au centuple, ah oui, clairement. Et puis, c'est assez exigeant parce que quand on explique des choses aux fiancés, on dit « Et nous ?» Et nous, on en est où?
Et pour vous, Isabelle?
Mais en fait, moi, je pense on a un topo qu'on fait avec Benoît depuis quelques années. C'est toute une journée sur le pardon. Mmh. On fait ça à Montauban. Et en fait, à chaque fois qu'on a cette journée qui approche, on se replonge dans notre topo. Et ça, on se dit, attends, mais nous, on n'est peut-être pas très bons encore. Pourquoi est-ce qu'on est là pour parler de ça, quoi, en fait? Mais en fait, le pardon, c'est un truc peut-être qui est quand même la place du pardon dans la vie de couple. C'est à mettre au quotidien ou en tout cas, et puis après en fonction des tempéraments évidemment ça se joue différemment, mais quand on fait ce topo là, les couples nous disent mais jusqu'où on peut pardonner par exemple, il y a des trucs qui sont impardonnables, donc en fait ben on parle de la miséricorde et on s'appuie sur ce que le Seigneur pardonne, comment il nous pardonne, nous pouvons essayer de nous pardonner, de comprendre l'autre, de rejoindre l'autre. Enfin, ça dit beaucoup de choses sur la vie de couple, ce topo sur le pardon, mais ça nous enrichit nous aussi à chaque fois.
Je vous propose, mesdames, Alix Delahaye et Isabelle Dacrevaille, de vous retrouver juste après dans cette émission de Vivante Église consacrée à cette période du temps des fiançailles en vue aussi du mariage, donc belle préparation, et de cette journée qui se prépare, qui se tiendra à Pibrac le 14 février. N'oublions pas que c'est la fête aussi de la Saint-Valentin, de tous les amoureux. Donc nous pensons à eux et je vous retrouve juste après. Merci.
Encore un soir, encore une heure, toujours ce désert dans mon cœur. Je broie du noir là, je suis pas d'humeur. Dis-moi, il est où le bonheur? 10 ans plus tard et autant d'erreurs. Toujours ce parfum, cette odeur. Je veux nous revoir ici ou ailleurs. Je veux m'envoler, graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées, les tempêtes.
tempête. S'il le fallait, je veux m'envoler. Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Rien que toi et moi, je veux m'envoler. M'envoler, m'envoler.
Dernier regard, dernière fleur. L'eau a coulé, les larmes meurent. Une autre histoire, un nom meilleur. S'abandonner, faire fuir nos peurs. Que nos mémoires effacent ces heures. Passer à torturer nos cœurs. Une dernière danse pour deux âmes sœurs.
Je veux m'envoler. Graver ton nom sur la tour Eiffel. Chanter du matin au soir pour t'aimer. Braver les vents, les marées.
Braver les vents, les marées, les tempêtes. S'il le fallait, je veux m'envoler.
Que le ciel s'assombrisse et nous arrose. J'inonderai ton cœur de mille et une roses. Et on prendra la vie comme elle viendra. Avec toi et moi, je veux m'envoler.
Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église consacré à cette période de la vie à deux, le temps des fiançailles en vue de cet engagement, en vue du mariage, Alix Delahaye et Isabelle Dacre-Vreit, nous poursuivons un peu cette émission et vous allez toutes les deux nous présenter un peu cette belle et grande journée, le 14 février, qui se tiendra à Pibrac. Quel est un petit peu donc l'objectif de la journée, le déroulement, le programme, pour donner peut-être envie à ces jeunes couples qui se questionnent, qui s'interrogent peut-être pour un engagement, non pas pour durer, mais un engagement à vie dans la fidélité et puis surtout cet amour, Isabelle.
Alors cette journée, c'est déjà une journée diocésaine. Hein, c'est vraiment l'évêque, Monseigneur de Quérimel, qui invite tous les fiancés du diocèse, tous ceux qui commencent à cheminer vers le mariage religieux, en paroisse souvent, peut-être accompagnés par un prêtre à l'extérieur, mais qui habitent sur le diocèse. C'est ouvert en fait vraiment à ces couples qui sont en cheminement vers le mariage. Et donc voilà, c'est vraiment une invitation. Ça se veut une journée où peut-être même aussi l'idée c'est de faire église en fait, c'est d'être de
faire montre, corps, être rassemblé,
d'être rassemblé, exactement, d'être rassemblé autour de l'évêque et alors bien sûr se rencontrer puis percevoir ce que c'est que l'église en fait, l'église vivante. On est dans cette, d'ailleurs c'est votre émission
vivante église,
c'est
oui.
Exactement ça, on voudrait à travers cette journée vraiment montrer le visage vivant de l'église et qui pourra être un soutien pour leur couple.
Oui, parce que parfois, ils connaissent que leur paroisse, qui est parfois une paroisse où il y a 18 clochers, donc excessivement... Enfin, il y a 3 personnes à la messe, quoi, c'est quand même un peu compliqué. Et alors là, ils découvrent les autres paroisses du diocèse, et donc les autres vies, les autres habitudes, les autres façons de faire. Et c'est vraiment, voilà, faire église pour découvrir les autres et voir qu'on n'est pas isolé dans sa paroisse, qu'on est vraiment un ensemble, et que notre évêque, donc notre pasteur, hein, notre père, nous invite, comme un papa invite à un déjeuner, un jour de repas de famille.
Alors vous insistez beaucoup pour cette journée diocésaine à la place et le rôle important de l'évêque.
Hein. Bah, écoutez, Monseigneur de Kerimel va être là toute la journée. Il va être là du matin à 8h où il y aura une petite messe pour les organisateurs, etc. Mais il va être là toute la journée.
Alors c'est important pour vous qui accompagnez ces couples.
C'est important pour nous, mais c'est surtout important pour les jeunes. Ils sont touchés l'année dernière. Moi, j'ai été touchée. Il y a des couples qui nous ont dit il était abordable. Il est resté avec nous toute la journée. On a pu échanger avec lui de façon simple. Enfin, ils ont été touchés par ses paroles. Je crois que c'était vraiment pour, en tout cas, aussi l'occasion pour des jeunes de rencontrer leur évêque.
Donc, visage de la paternité.
Oui, c'est de ça, la paternité, ouais. De la sagesse, de la bienveillance. Mmh. Il est à l'écoute.
Il est drôle. Donc, il y a toujours des touches d'humour. Des petites touches d'humour qui sont... qu'on n'attend pas forcément.
Quel est le programme que vous proposez pour cette journée qui est une journée de rencontre, donc qui est une journée importante, sérieuse, mais à la fois festive?
Alors, ben, on va déjà commencer par un petit café avec des petites...
l'accueil,
des petites
un accueil chaleureux.
Voilà, oui. Et où il y aura un petit temps, on fait connaissance...
De présentation.
Les couples arrivent, les couples de fiancés arrivent, sont un peu perdus, il va y avoir une centaine de couples de fiancés. Donc en fait, on les met trois par trois avec un couple par un. Donc, qui est un couple marié, pas forcément qui fait de la préparation au mariage, mais qui donne ce temps, cette journée-là, pour ces couples-là. Et donc, ils font des petites équipes, trois couples de fiancés et un couple parrain, et ils vont vivre cette journée ensemble. Donc, ils commencent déjà par faire connaissance sous un café. Et puis, ensuite, une fois que tout le monde est arrivé, on va se retrouver dans la grande salle. Et là, Monseigneur de Kerimel. Non, d'abord peut-être un couple va présenter la journée, puis ensuite Monseigneur de Kerimel fera un petit topo, présentera un petit peu, parlera un petit peu du mariage, etc. Et puis, on a des chants.
Beaucoup de temps de louange.
Des temps de louange.
Des temps de louange pour vraiment ouvrir notre cœur, pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Et puis pour remercier ce temps qui nous est donné, remercier le temps des fiançailles qui est un temps qui nous est donné et cette journée qui est un temps donné dans les fiançailles.
Ça peut être une introduction aussi à permettre au couple de découvrir ce que c'est que la prière, simplement, avec un chant. Ils découvrent aussi l'Ève, notre...
Le groupe de musique.
Le groupe de musique.
Qui va nous accompagner toute la journée.
Parfois qui anime des mariages aussi. Ouais. Et puis ensuite, on a un très beau temps... de témoignages, dont on parlait tout à l'heure, où trois couples mariés depuis quelques années viennent témoigner. Alors, ils parlent pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, vraiment en profondeur sur ça va être leur rencontre, leur décalage dans la foi, la maladie, et comment tout ça, en fait, a été... comment ils ont traversé ça ensemble, avec des réalités différentes. Et c'est vraiment, dans les retours qu'on a, c'est ce temps-là qui est très fort pour eux. Très, très fort. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'en fait, ça va être parfois difficile. Peut-être, hein, pas toujours, mais que on peut se sortir de ces ornières. On peut trouver des... Voilà. Et puis que le Seigneur est là, en fait. C'est vraiment ça qui ressort. Le Seigneur est là. On l'invite à venir visiter nos faiblesses, venir visiter nos difficultés. Et ça, ils sont vraiment très touchés par ce temps-là.
Parce qu'en plus, c'est touchant parce qu'à chaque fois, les couples se livrent sur quelque chose de très, très personnel, voire très intime. Et ils se livrent en toute confiance. Donc déjà, ça touche une des personnes qui sont en face en disant, eux, ils sont capables de le faire. Et en effet, moi aussi, j'ai cette blessure. Moi aussi, il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà, ça, c'est très, très touchant. Et effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Évidemment, on va tous traverser des difficultés. Et comment les vivre, comment les traverser, comment les accepter et comment être Dieu au milieu de ça.
Donc l'espace du temps de témoignage est un moment important de cette journée.
Oui, et en fait, on va leur proposer un temps de réflexion, d'échange après, dans ces fameuses petites équipes. Ils vont, après ces témoignages, vont se retrouver en petite équipe, les mêmes qu'au départ, et ils vont dire ce qui les a touchés, ça va être peut-être l'occasion d'aller peut-être un peu plus loin ou de poser des questions au couple parrain. Enfin, voilà. Et donc, c'est un temps d'échange qui dure un peu une heure et après il y aura le repas.
Le temps du repas est un. Alors, on fait très attention aussi à la qualité du repas pour que ça soit bon, pour qu'on passe un bon moment. Ça, c'est très important.
C'est le jour de la fête des amoureux.
Hein,
la fête
des quand même, on a choisi cette date aussi symbolique.
Voilà. Les petites équipes dont tu parlais, Isabelle. Donc, ce couple parrain et les trois couples fiancés déjeunent ensemble. Donc, c'est vraiment, ils passent vraiment toute la journée ensemble. Donc, ils déjeunent ensemble. On fait attention à ce que la table soit prête,
donc,
soit belle.
Ces couples parrains que vous nommez sont des couples accompagnateurs pour la journée.
Oui, pour la journée.
Auprès de ces trois couples.
Oui, exactement.
On soigne la table. Il faut qu'elle soit belle avec des fleurs. Enfin, voilà, c'est
donc,
vraiment
c'est très festif.
C'est très festif. On veut que ça soit le plus beau possible.
Donc, c'est très soigné dans les petits détails.
Oui, parce qu'on veut qu'il soit dans un cocon. Tout en douceur, parce que c'est un temps, le temps de la préparation, le temps de l'écoute. Si on n'est pas à l'aise, on peut pas se lâcher. Et si on veut contrôler parce qu'on sent pas à l'aise sur telle chose, qu'on a faim,
qu'on a froid,
en fait ça c'est pas joli, je suis un nain, ben on peut pas se lâcher et on peut pas recevoir et on peut pas donner. Donc on veut vraiment qu'il soit dans un petit cocon, qu'il soit bien. Qui puisse vivre cette journée. Donc tout au long de la journée, donc au déjeuner, ils sont encore ensemble, les trois couples et le couple parrain.
Et en fait, ils tissent des liens entre eux. Oui. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, ils tissent des liens entre fiancés, avec le couple parrain. On va voir qu'à la fin de la journée, ils échangent leur téléphone. Certains nous ont partagé qu'ils continuaient de s'envoyer des messages, faisaient un petit groupe WhatsApp, ils s'envoient des photos de leur mariage. Et c'est touchant, en fait, parce qu'ils ils se sont retrouvés comme ça par hasard.
C'est un lien d'amitié qui se tisse.
Et pour certains, le lien tient, en fait, dans la durée. C'est quand même...
Ces couples qui parrainent trois couples au cours de cette journée peuvent jouer aussi un rôle important pendant la fin ou après aussi.
Mais parfois, c'est propre à chacun de garder ce lien. Je ne sais pas, on n'impose rien. C'est vraiment
Quels sont les défis ou le défi particulier pour cette journée du 14 février, cette journée spéciale fiancée en vue aussi de cet engagement vers ce sacrement si beau du mariage. Et Isabelle et Alix.
Le défi.
Il y a toujours un défi dans une journée.
Que ça se fasse le mieux possible.
Que ce soit paisible.
Mmh. Ouais, qu'on soit...
On a parfois des couples qui arrivent qui ont des blessures aussi déjà. Mmh. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est les blesser et en rajouter. On ne veut pas être là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... mais il y a des sujets douloureux.
Par exemple, la pornographie
ou l'infertilité. Mmh. Des couples qui déjà savent que c'est déjà leur quotidien, ils savent qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants ou qu'ils n'ont pas d'enfants ou qu'ils ont fait un parcours de PMA, etc. Eh bien, en fait, si dans les témoignages ou si dans les ça évoque, on pourra pas éviter que ça émerge, mais en fait, pour que ça soit le plus à la fois le plus consolateur et le plus constructif, oui. Mm. Et ça, c'est vraiment et ça nous demande de la délicatesse. Mm. Donc c'est quelque chose, voilà, on est sur de l'humain. Hein, c'est pas juste une journée, faut que voilà, il y a vraiment et en fait ne pas braquer les personnes, mais si on rajoute quelque chose qui pourrait les blesser, en fait on va pas du tout dans ce qu'on voudrait, c'est leur permettre de cheminer.
Et vous avez parlé de consolation.
Oui. Il y a certainement des choses à consoler. Je pense que c'est un peu une des missions de l'Église aussi, de la consolation, de la réparation, la
consoler mon peuple.
Ouais.
Vous avez parlé à l'instant de la pornographie, c'est un sujet d'actualité, comme beaucoup aussi de sujets dans les différentes addictions aussi, et puis de ces jeunes couples, voire un peu plus âgés, qui arrivent, et vous les avez nommés, parfois avec des bagages, des valises, des blessures de la vie, et dans ces blessures de la vie, il y a parfois aussi des addictions.
Mmh.
Et vous travaillez dans cette préparation au mariage quand des couples sont susceptibles d'avoir malheureusement quelques addictions. Vous y prenez comment dans cette préparation au mariage, sans rentrer véritablement dans tous ces petits détails qui sont très importants.
D'abord, il y aura un grand accueil et surtout pas de jugement.
Dans la journée. Hein.
Dans la journée.
Oui.
Pas d'accueil. Enfin, voilà, accueillir et surtout pas juger. Surtout pas plaquer froidement la doctrine de l'Église, sans explication, sans écoute, sans... Voilà.
Et puis surtout, l'Église ne nous dit pas « faut faire ci, faut faire ça ». Elle nous montre un chemin pour accéder à... Et bien sûr que c'est tortueux et que ça va monter, ça descend. Voilà, je pense que le Seigneur, il nous montre un cap, mais il ne nous dit pas « c'est maintenant comme ça » ou « c'est rien ».
En fait, il montre le chemin.
Il montre
le chemin de la vie.
Et ce chemin, il peut prendre des années. Et ça, c'est la réalité de notre patte humaine.
Donc, vous insistez sur l'importance aussi pour une telle journée, avec la diversité aussi des profils de couples, les histoires de couples, sur cette bienveillance et cette douceur et ce non-jugement dans l'accueil.
En tout cas, ça, c'est notre... C'est ce que nous, on veut vraiment mettre. Voilà. Et je vois que les témoignages, donc quand ils abordent la pornographie, par exemple, c'est un témoignage. Donc les personnes, elles parlent en tant qu'elles, enfin, là, ce couple de 50 ans, voilà, lui, voilà. Et ben, en fait, ça vient les rejoindre, mais pas en leur disant ce que tu fais, c'est pas bien, mais en leur disant, ben voilà, oui, moi, ça m'a blessée là-dedans, et ça blesse, la pornographie blesse. Où est-ce que tu en es dans ton cheminement par rapport à ça? Il n'y a pas de... C'est juste, justement, c'est ça l'avantage du témoignage, en fait, plutôt que d'un topo sur la pornographie.
Monseigneur de Kerimel qui sera présent,
oui.
Ça c'est important pour vous qui êtes aussi engagé, et vous avez aussi cette responsabilité. Est-ce que vous percevez aussi cette responsabilité que vous avez dans le cadre de l'accompagnement de ces futurs couples qui recevront ce sacrement de mariage à l'église, Alix et Isabelle?
Ben, on est un petit bout de chemin avec eux, hein. On a notre part à faire ce jour-là ou pendant la préparation, si on fait la préparation sur l'année. Mais c'est comme tout.
Donc c'est un engagement en vérité, dans la douceur, mais en vérité.
En vérité et sur un temps. Sur un temps. Court ou long, mais en fonction de... Voilà, on ne va pas les tirer vers le mariage. Ce n'est pas l'idée, c'est plutôt d'être à côté, de marcher avec eux, ce temps-là.
Marcher à côté, alors des parents, des grands-parents vous écoutent peut-être dans ce Vivante Église du jour, consacré aussi, on passe l'information à cette belle journée qui se prépare à Pibrac le 14 février. Si vous deviez lancer peut-être un message à des parents qui sont parfois inquiets parce que les enfants ne souhaitent pas peut-être aller jusqu'au bout et aller jusqu'à ce sacrement de mariage, ou des parents qui mettent un peu peut-être parfois trop de pression ou trop d'inquiétude, un conseil l'une et l'autre?
Moi, c'est pas un conseil que je donnerais, mais on a eu peut-être une forme de grâce. On a deux couples, deux de nos enfants qui ont repoussé leur mariage de quelques mois. On leur a dit merci, parce que ça veut dire que vous êtes libre de pouvoir le faire vis-à-vis de nous, parce que bien sûr, il y a des engagements financiers et tout ça. Mais vraiment de les laisser en liberté, cheminer le temps qu'ils doivent cheminer. Et si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas.
Quel est, selon vous, le secret pour qu'un couple puisse durer? Voilà. Isabelle et Alix.
C'est Jésus.
Moi, je dirais dialoguer et pardonner.
C'est vraiment... Que ferait Jésus à ma place? C'est remettre Jésus au sein du couple.
Vous insistez beaucoup, hein. Il fait partie du couple.
On lui demande. On lui demande. C'est vraiment que Jésus vienne nous visiter, vienne nous transformer, vienne nous purifier. Parfois, nous ouvrir les yeux, enlever ce qu'on a en trop dans notre cœur.
Que ferait Jésus à ma place? Comment Jésus regarde mon conjoint? Comment je le regarde?
Ouais.
Il y aurait tellement de choses à dire, on pourrait rester des heures, hein, sur le mariage, sur le sacrement de mariage, sur le parallèle avec l'Eucharistie. Jésus qui se donne dans son corps. Est-ce que je me donne dans mon corps à mon mari?
Enfin, tu vois, vous abordez tous ces sujets dans la préparation?
Alors, ça dépend.
L'Eucharistie, quand on va à la messe avec eux, dans le parcours dans lequel on est, mon mari et moi, on va à la messe avec eux. Et on réexplique d'ailleurs le sens de la messe, d'abord comment se déroule une messe et le sens de la messe. Donc effectivement, on parle de l'Eucharistie, Dieu qui se donne à nous, et comment nous, on peut se donner à Dieu dans cette vocation en mariage.
Et comment on peut se donner l'un à l'autre.
Alors, un dernier mot peut-être pour inviter les parents ou les grands-parents qui vous écoutent, inviter peut-être tous ces jeunes couples à participer, donc sans peur, sans crainte. On entend bien que cette journée qui aura lieu à Pibrac, à côté de Toulouse, sera honorée donc de cette présence aussi de Monseigneur de Kerimel et puis de vous tous qui accompagnez ces couples. Un dernier mot.
Nous, on se prépare à accueillir une centaine de couples de fiancés avec une quarantaine de couples parrains.
Tout est préparé, tous les parrains sont préparés.
Tous les parrains sont quasiment préparés. Voilà, il y a déjà une quarantaine de jeunes couples de fiancés qui sont inscrits. Et ben, on attend la suite.
Voilà, tous les témoins sont préparés.
Les témoins sont là. Voilà, on est dans un mois.
C'est finalisé, cette journée est finalisée pour. On est sur le 14 février.
Les petits détails.
Et vous attendez ce moment avec impatience, toutes les deux, parce que c'est avec beaucoup de joie.
Oui, c'est beaucoup de joie. Ouais. C'est beaucoup de joie.
On entend cette joie aussi quand vous abordez aussi ce thème des fiançailles en vue du mariage.
C'est beaucoup de joie d'accueillir des personnes qui viennent de toutes parts et de faire église. Vraiment, le Seigneur attend tout le monde, tout le monde. On est tous invités à la table du festin, donc on est tout le monde à sa place. Donc c'est vraiment important.
Ça, c'est important, ce que vous soulignez. Tout le monde à sa place.
Et puis moi, j'inviterai peut-être tous ceux qui font la préparation mariage dans les paroisses à peut-être proposer cette journée en fait qui n'enlève rien à la préparation de mariage de la paroisse, mais qui rajoute vraiment une dimension d'église autour de l'évêque.
Voilà. Autour de l'évêque, voilà. On entend bien. Rendez-vous donc avec l'évêque, autour de l'évêque, le 14 février, c'est à Pibrac. Vous aurez donc dans cette émission et en podcast toutes les informations avec les liens qu'il faut pour participer.
S'inscrire.
Et s'inscrire avant le 1er février.
Normalement.
Voilà. Merci Alix Delahaye, merci à vous Isabelle Dacrevreit, et nous vous souhaitons une bonne préparation avec tous ces couples que vous écoutez, que vous accueillez, que vous accompagnez, et puis une très belle journée. Merci à toutes les deux.
Merci Nathalie.
Au revoir.